Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, au 1er juillet, l'Église a placé une fête destinée à exercer son influence durant tout le mois, la fête du précieux sang de notre Seigneur. C'est le pape Pie IX qui l'a instituée, afin de rendre grâce à l'une des victoires de l'Église les plus éclatantes du XIXe siècle, la dernière des grandes victoires de l'Église en attendant le triomphe du cœur immaculé de Marie. En 1848, les troupes révolutionnaires s'étaient emparées de Rome et le pape avait dû s'enfuir à Gaète, accueilli par le roi de Naples. Mais les 28, 29 et 30 juin, les troupes françaises réussissaient à reprendre la ville éternelle. Le 2 juillet, en la fête de la Visitation de Notre-Dame, les révolutionnaires signaient leur capitulation. Le pape put alors revenir à Rome et reprendre son pouvoir temporel. La France avait été à la hauteur de sa vocation de fille aînée de l'Église, protectrice du Saint-Siège. Ce fut la dernière fois. Aux élections pour la présidence de la République, Napoléon III n'avait eu les voix des catholiques qu'en leur promettant son appui au pape, d'où son intervention pour le rétablir dans ses états. Mais c'était sans conviction. Son idéal politique demeurait maçonnique et révolutionnaire. Celui que Notre-Dame de la Salette appellera « ce renard » écrira au lendemain de la bataille qu'il n'avait jamais été question pour lui d'étouffer ce qu'il appelait la liberté italienne. En 1870, il rappellera ses troupes en France et laissera Garibaldi s'emparer définitivement des États pontificaux. Le pape était en fait prisonnier dans le Vatican. Dieu le punira par la défaite de Sedan, l'invasion de la France, la fin du Second Empire, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Cependant, en action de grâce pour son retour à Rome, Pie IX institua en 1849 une fête en l'honneur du précieux sang. Pour honorer les soldats français, la plupart catholiques, qui avaient uni leur sang au sang de notre Seigneur pour défendre l'Église, et pour célébrer le précieux sang de Jésus-Christ, cause de toutes nos victoires, comme nous allons le voir. Le pape Pie XI élèvera cette fête au rang de première classe en 1933, à l'occasion du 19e centenaire de la mort de notre Seigneur. Et puis une autre révolution interviendra, la révolution de Vatican II. La fête du précieux sang a été supprimée dans la liturgie protestantisée de Paul VI. Mais traçons d'abord en quelques mots l'histoire du précieux sang. Tout d'abord, c'est sur notre terre, dans le sein de Notre-Dame, que le précieux sang de notre Seigneur a pris naissance. Le Saint-Esprit, en effet, l'a formé du sang de la Vierge Immaculée. Et aussitôt formé, il a été uni à la seconde personne de la Sainte Trinité, comme son corps issu aussi de Notre-Dame, et comme son âme créée par la Sainte Trinité. Ce sang est donc digne d'adoration parce qu'il est le sang d'un Dieu. Mais dans la pensée éternelle de la Sainte Trinité, ce sang ne devait être formé que pour être le prix de notre salut en étant versé sur la croix. Faisant allusion au grand prêtre dans l'Ancien Testament qui, une fois par an, au temple de Jérusalem, entrait dans le Saint des Saints pour y porter le sang d'un sacrifice d'animaux afin d'implorer le pardon des péchés du peuple, saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, écrit « Le Christ, étant venu comme pontife des biens futurs, est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant acquis une rédemption éternelle, s'étant offert une fois pour effacer les péchés de beaucoup. » Il faut savoir qu'une seule goutte de ce sang aurait suffi pour racheter tous les péchés de l'humanité, comme un seul soupir de Jésus dans le sein de Notre-Dame. Puisque toutes les actions de Jésus sont celles d'un Dieu et donc ont une valeur infinie. Mais dans sa sagesse éternelle, Dieu avait prévu que son Fils verse tout son sang sur la croix pour nous montrer à la fois la gravité du péché et l'immensité de son amour. Le prix de notre âme, c'est donc le sang d'un Dieu. Alors faisons en sorte, par notre vie, que ce sang n'ait pas été répandu pour rien. Dans la nuit de Pâques, unissant de nouveau son âme à son corps par sa puissance divine, notre Seigneur a repris son sang et il l'a transporté au ciel, à l'ascension, où il coule maintenant glorieux dans ses propres veines. Mais l'histoire du précieux sang de Jésus ne s'arrête pas là. Son précieux sang est maintenant comme une pluie qui arrose le monde pour sanctifier les âmes et étendre les conquêtes de l'Église. D'abord par les sacrements. Les sacrements, dit saint Thomas d'Aquin, tirent toute leur efficacité de la passion de notre Seigneur, donc du sang qu'il a versé pour nous. Les sacrements sont les conduits qui amènent aux âmes le précieux sang qui seul peut les sanctifier et les sauver. Et cela se réalise que les sacrements soient reçus de la manière ordinaire ou bien par le simple désir lorsque nous ne pouvons les recevoir autrement. Certes, cela se réalise de manière invisible, mais non moins réelle. Le baptême dont parle l'épître de ce jour est la première application du sang de Jésus à notre âme, la lavant aussitôt du péché originel. Il faut bien comprendre, et vous pouvez y réfléchir lorsque vous assistez à un baptême, chaque baptême est une œuvre plus grande que la création de tout l'univers. Parce que la grâce sanctifiante qui remplace le péché originel est une participation à la nature divine, ce qui est incomparablement plus grand que l'univers, qui n'est qu'une réalité naturelle. Et le résultat, c'est la Sainte Trinité qui vient aussitôt habiter dans l'âme comme dans un temple. La grandeur de la religion chrétienne, c'est qu'elle seule peut faire des âmes le temple de Dieu. Cependant, le baptême n'est que la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Il ne nous est donné que pour nous permettre de nourrir notre âme du corps et du sang de Jésus par la Sainte Eucharistie. Sainte Eucharistie annoncée par la multiplication des pains dont nous venons de lire le récit. Le saint curé d'Ars se disait, si l'on peut s'exprimer ainsi, que le bon Dieu a réfléchi pour se demander, après nous avoir créés, quelle nourriture il pouvait donner à notre âme. Et il n'a pas trouvé notre âme si belle, si digne, qu'il n'y avait pas de nourriture plus grande, ou plutôt moins grande, que le corps et le sang de Jésus. Le bon Dieu ne pouvait pas lui donner moins. Mais n'oublions pas que la messe est d'abord un sacrifice, et l'Eucharistie est le fruit de ce sacrifice. À la messe, de par l'institution divine, la consécration séparée du corps puis du sang de notre Seigneur, qui représente leur séparation sur la croix, cette consécration séparée renouvelle de manière non sanglante l'unique sacrifice du calvaire pour nous en appliquer les fruits aujourd'hui. Et lorsque le prêtre élève le calice à la consécration, eh bien, adorons, vénérons ce sang de Jésus qui a été répandu sur la croix et qui est là dans le calice, uni bien sûr au corps, à l'âme et à la divinité de notre Seigneur. Des saints ont vu en vision, à l'élévation, le calice débordé, des anges venir avec des coupes d'or, recueillir ce précieux sang et aller le porter aux quatre coins du monde pour tous les besoins des âmes, et jusque dans le purgatoire pour en soulager les habitants, puisque chaque messe est célébrée pour les vivants et pour les morts. Et c'est ce sang de Jésus que nous recevons à la communion, unis au corps, à l'âme et à la divinité de notre Seigneur, toujours, bien sûr. Mais n'oublions jamais alors que lorsque nous communions à une victime qui vient de s'immoler sur l'autel. Dans le Saint-Sacrement, notre Seigneur est dans les mêmes dispositions d'âme que sur la croix. C'est la vertu de son sang versé il y a 2000 ans que nous recevons à la communion pour expier nos péchés et pour nous transformer en notre Seigneur. Notre Rédempteur a fait de son sang un breuvage et de sa chair une nourriture pour tous ceux qui le veulent, dit Sainte Catherine de Sienne. Il n'y a pas d'autre moyen de rassasier l'homme. L'homme n'apaise la faim et la soif de son âme que dans ce sang. Il ne peut se rassasier que dans le sang du Christ, parce que ce sang est uni et mêlé à la divinité. Et nous savons que notre Seigneur, dans sa miséricorde infinie, connaissant notre fragilité et notre faiblesse, a institué une autre planche de salut, une deuxième planche de salut, qui permet à notre âme de retrouver la pureté de son baptême si elle est tombée dans le péché mortel. Et si l'âme est restée en état de grâce, ce sont ses péchés véniels qui alors vont être détruits et elle va recevoir de nouvelles forces pour lutter contre les tentations. Cette deuxième planche de salut après le baptême, eh bien, c'est le sacrement de pénitence. Lorsque le prêtre nous donne l'absolution, eh bien, pensons que le précieux sang de notre Seigneur coule à ce moment sur notre âme pour y détruire le péché, pour nous purifier, pour nous sanctifier. En ce moment, ce matin, par exemple, eh bien, des millions d'âmes sont heureuses dans le ciel, qui auraient été précipitées en enfer si ce sacrement n'avait pas existé. Ici, le précieux sang doit déployer plus de force que dans le baptême, écrit un auteur, parce qu'il a plus de résistance, d'endurcissement, de mauvaises habitudes à briser, ce qui n'était pas le cas chez le petit enfant à peine né. Mais sa puissance est infinie. Si le fruit du sang n'était pas infini, dit Dieu à Sainte Catherine de Sienne, l'homme qui m'offense après avoir reçu le baptême ne pourrait pas, après son péché, recouvrer ma grâce. Mais ma miséricorde est inépuisable. C'est ce que vous révèle mon côté entrouvert où l'on peut lire le secret de mon cœur. Et l'on pourrait continuer ainsi avec tous les sacrements. Mais l'action du précieux sang ne se limite pas au moment où nous recevons les sacrements. Toute notre vie chrétienne n'est qu'une conséquence des sacrements que nous recevons. En effet, s'il y a 7 sacrements et non pas un seul, c'est que chacun a un effet spécial. Tous, bien sûr, donnent la grâce sanctifiante, mais selon le sacrement que nous recevons, la grâce est différente. Elle est à la fois adaptée aux besoins pour lesquels nous recevons ce sacrement et en même temps, elle nous donne un droit à recevoir les secours surnaturels correspondant à ce sacrement. Par exemple, la grâce spéciale du baptême nous donne droit à recevoir les secours de Dieu qui nous sont nécessaires pour vivre en chrétien. La grâce spéciale du sacrement de pénitence nous donne droit à recevoir les grâces dont nous avons besoin pour pleurer nos péchés et pour nous tenir en garde contre eux. La grâce spéciale du sacrement de mariage aide les époux à rester fidèles l'un à l'autre, à accomplir l'acte conjugal selon les lois de Dieu, à éduquer leurs enfants, etc. Ces secours spéciaux auxquels les sacrements nous donnent droit et sans lesquels nous ne pouvons par nous-mêmes pas même avoir une seule bonne pensée, dit saint Paul, ni faire une seule bonne action méritoire pour le salut. Eh bien, ces secours spéciaux, on les appelle les grâces actuelles. Notre Seigneur les a méritées en versant son sang sur la croix. Elles sont donc encore un fruit du précieux sang. Bien sûr, à nous de correspondre à ces grâces. En tout cas, nous pouvons dire que nous avons alors besoin du précieux sang à chaque instant, puisque nous ne pouvons pas faire un seul acte bon, avoir une seule bonne pensée méritoire, sans ces grâces actuelles, ces secours qui nous ont été mérités par notre Seigneur en versant son sang. Le précieux sang est donc inséparable de la vie chrétienne, de la vie de l'Église et même de la chrétienté. C'est lui qui, depuis la Passion, reconquiert le monde pour Dieu à chaque époque, ce monde où Satan avait tout pouvoir. Les litanies du précieux sang, d'ailleurs, sont la liste des victoires innombrables du sang de Jésus, des victoires de sa puissance. Vainqueur des démons, force des martyrs, soutien des confesseurs de la foi, sang qui produit les vierges, réconfort de ceux qui sont en danger, soulagement des affligés, apaisement de ceux qui pleurent, espoir des pécheurs, consolation des mourants, douceur et paix des cœurs, libérateur des âmes du purgatoire. Et si aujourd'hui le démon reprend ses conquêtes à l'Église, si le péché se répand sur terre d'une manière si effrayante, c'est parce qu'en conséquence de la crise dans l'Église, le sacrifice de notre Seigneur est de moins en moins célébré, c'est un fait. Toutes ces églises fermées dans nos campagnes, le dimanche matin, sur la place de l'église, il y a quelques années, c'était noir de monde. Aujourd'hui, plus personne, les églises fermées, plus de prêtres, plus de messes. Le nombre d'ordinations qui ne cesse de chuter. L'ambiguïté du nouveau rite qui peut permettre une intention du prêtre opposée à l'intention de l'église et rendre certaines messes invalides. Ces concélébrations qui diminue le nombre de messes, puisque lorsque plusieurs prêtres concélèbrent, c'est une seule messe qui est célébrée. Et même le doute maintenant sur la validité de certaines ordinations. Il n'y a plus assez de messes pour faire contrepoids à l'action du démon aujourd'hui. C'est l'explication de tout ce à quoi nous assistons dans le monde. Mais le précieux sang garde sa puissance pour chacun de nous. Plus les temps sont difficiles, plus nous devons aller nous abreuver à ce précieux sang sorti du côté de Jésus pour nous sauver et nous fortifier, et qui parvient à nous par les sacrements. Alors demandons à la Vierge Marie qu'elle nous en convainque toujours plus. C'est son sang, comme nous l'avons dit, qui a été la matière dont le Saint-Esprit s'est servi pour former le sang de Jésus. Et au calvaire, elle a vu ce sang de Jésus couler pour sauver le monde. Alors plus que tout autre, elle connaît sa valeur et sa puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.